Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Donc on va baisser juste un peu d'un ton, on est tous des passionnés.
Enfin, je sais
donc
pas, moi,
j'écoute ton argument.
On va pas jouer sur les autres, je dis simplement tout le monde a tort, à part là, va écouter les débats à l'équipe TV, va écouter les débats à RMC, va écouter les débats européens, tout le monde te dira, tous les gens, les spécialistes qui suivent te diront, l'équipe de France est une équipe physique, très physique, qui mange les gens.
Bonsoir à toutes et à tous, il est pile 20h sur Mon Paris FM. Vous êtes dans l'émission Au bout du foot. Effectivement, l'équipe de France mange les gens. L'équipe de France a mangé justement cette équipe belge quasiment à la fin de la rencontre. 1-0, un but soldé justement, marqué plutôt par Kolo Muani. Kolo Muani qui rentre. Ouais, mais bon, c'est sur l'inoffensive de Kolo Muani. On est bien d'accord, hein, les amis. La France donc se qualifie laborieusement, mais... qualification tout de même. Bonsoir les amis. Salut Eladj.
Salut Malik.
Salut Alex.
Salut Malik.
Salut Stéphane.
Salut Malik.
Le quotidien du sport.fr. Puis salut Lucas.
Salut Malik, ça va.
Et puis on va dire que notre ami, c'est qui? Chakenza. Il est attendu justement au studio. Chakenza, viens reprendre ta place. Les amis, au sommaire, on va donc se poser la question de savoir quels sont vos différents faits marquants après le France-Belgique. Quelles appréciations donnez-vous aux joueurs? Qui a été performant? Qui a été moyen? Qui a été décevant? Y a-t-il eu des moments à oublier lors de ce match? Sans langue de bois, nos consultants vous diront tout. Maintenant que l'équipe de France est qualifiée, quel adversaire pour les quarts de finale? On y revient dans quelques instants également. Également dans ce numéro d'Au bout du foot, nous évoquerons les autres matchs de ces huitièmes de finale passés et à venir. Mardi 2 juillet, on aura donc Roumanie, Pays-Bas, Autriche, Turquie, qui seront donc les derniers huitièmes de finale de cet Euro 2024. On évoquera aussi l'Olympique de Marseille, la signature de Zerbi pour 3 ans. Et puis à la fin de cette émission, on basculera tout de suite dans notre quiz. C'est parti pour Au bout du foot, 20h02. Alors, tout de suite et maintenant, les amis, quel a été le fait marquant de ce match pour vous? On va commencer avec Alex.
Franchement, moi, je vais pas faire dans la dentelle, c'est l'ennui. Très clairement, je vais rester poli, mais je me suis vraiment, vraiment ennuyé devant ce match. Je n'en peux plus. Avec le vivier qu'on a, je comprends pas comment on peut produire un tel football. Mais comme va si bien le dire Stéphane, on retient la victoire malgré tout, mais je me suis fortement ennuyé pendant ce match.
Tu as parlé de Stéphane. Stéphane, tu as la parole. Ton fait marquant de ce match?
Mon fait marquant de ce match, la composition de l'équipe, la façon de jouer de la Belgique, qui était au moins aussi surprenante que celle de l'équipe de France. Mais là-bas, c'est surtout l'équipe de France, quoi. La façon de jouer de l'équipe de France et le fait que ça nous paraisse dingue qu'il y ait une telle différence dans l'apport entre Kolo Muani et Thuram, par exemple. Qu'on a vu que quand... Enfin, ça paraît évident, mais c'est Deschamps, donc on ne va pas dire qu'on sait mieux que lui. Hein.
C'était pour le jeu de tête, je pense.
Je ne sais pas.
Ton fait marquant, Lucas?
Ce serait la faiblesse abyssale de la Belgique, parce que j'ai pas vu une grande équipe de France, comme je vois pas une grande équipe de France depuis le début du tournoi, mais la Belgique qui n'a pas réussi à nous inquiéter à part sur des à-coups, qui a vraiment subi pendant la plupart du match, c'est ça que je retiens, ouais, une Belgique très très faible.
Et là, il y a ton fait marquant.
Mon fait marquant, c'est vraiment cette équipe de Didier Deschamps qui sont vraiment... pas très laborieux à voir. On a pu voir 18 tirs, un seul tir cadré, un but contre son camp.
Laborieux à voir, tu veux dire? T'as dit pas très laborieux.
Oui, dans ce qu'ils font, en tout cas, dans ce qu'ils produisent, du moins. Et c'est...
Donc ils sont laborieux, c'est ça que tu veux
dire? Ils sont laborieux, oui et non. Plus ou moins, on va dire. Ils ont cette chance, on va dire. Voilà. C'est plus... Ils ont cette chance, mais à part la chance, ils ont pas grand-chose. Parce que là, encore, c'est encore un but contre son camp. C'est encore... franchement, des tirs pas cadrés, dans le jeu, c'est En fait, tu t'endors, franchement, tu t'endors. Moi, je commente le match, je m'ennuie, il n'y a pas d'emballement. Et là, surtout quand tu ne mets pas de joueurs qui vont vite, parce que d'habitude, tu mets un peu Ousmane Dembélé ou Barcola. Là, tu mets ni Ousmane Dembélé, ni Barcola, tu ne mets Thuram devant.
Il y a Mbappé qui va vite.
Il y a Mbappé, même Mbappé, il va vite, mais Mbappé, il n'est pas bon ce soir. Il n'est pas bon, Mbappé.
Il fait pas un bon euro, à part
quelques dribbles sur le côté, il n'est pas bon, Mbappé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, Mbappé n'est pas dans ses standings, là où est-ce qu'on l'attends. Voilà.
Ton fait marquant, Chakenza.
Mon fait marquant vraiment de cette rencontre, ça a été vraiment l'attitude d'Aurélien Tchouaméni. Malgré qu'il ait tenté beaucoup de frappes, il a été très utile dans le jeu, surtout au niveau des relances. Parce que par moments, le jeu était fermé, donc c'est lui qui arrive à trouver la solution côté droit, que ce soit côté gauche. Mais je pense que c'est lui qui ressort du lot un peu, quoi, selon moi.
Lucas.
J'ai trouvé aussi que c'était le meilleur match de Tchouaméni depuis le début du tournoi parce que vraiment il m'avait pas fait forte impression depuis le début, mais je préfère retenir déjà Jules Koundé. Je trouve qu'il fait vraiment qui est
super solide. Match, Jules Koundé.
Ah, il a été élu homme du match, et après moi j'ai comment dire, je trouve que Théo Hernandez aussi est monté en puissance et c'est pas mal. Il a fait des beaux retours et il a proposé offensivement, mais enfin le problème c'est encore une fois j'ai parlé de l'animation de l'équipe qui est vraiment insuffisante.
Donc c'est l'équipe, hein, toi, dans son ensemble, ouais, ouais, que tu as trouvé tout simplement insuffisant au niveau donc, des performances.
Ouais, je rejoins l'agent ce qu'il a dit. Déjà, sur les premiers matchs, avec une composition un peu plus ouverte, on n'arrivait pas à jouer. Là, quand en plus, il recentre, il ne met pas de joueurs qui déséquilibrent, ça sentait la purge et le match a confirmé nos craintes.
On va, malgré tout, hein, tenter quand même de ressortir. C'est vrai que vous avez cité quelques noms. On va tenter de ressortir quand même quelques noms côté français qui ont pu performer, même si c'est vrai que dans l'ensemble, ça a été difficile, ça a été même très, très, très difficile, très laborieux. Alex, tu ressors qui côté français?
En fait, c'est la même chose depuis le début de la compétition, c'est-à-dire qu'on va ressortir les quatre de derrière parce qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. En fait, ils n'ont pas été inquiétés parce que la Belgique était cataclysmique, mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Maignan a quand même su sortir les ballons au moment où il fallait les sortir. Et sinon, au-delà de ça, oui, Tchouaméni et surtout Jules Koundé qui arrive, qui ça fait plaisir de voir des joueurs français réussir des centres. Au moins, lui, il a réussi des centres. Et même si c'est de temps en temps fait un peu mélangé par Doku, il a quand même su tenir le match et il fait un très bon euro. Et je suis un peu d'accord avec Chakenza, Tchouaméni aussi, on peut le sortir un peu du lot. Il a su orienter le jeu, ses transversales, ses ballons longs étaient vraiment bien. Même s'il n'était pas trop droit dans ses frappes, il a su prendre des initiatives. Mais à part ça, franchement, là c'est parce que je suis gentil, mais je vous assure que c'est catastrophe, vraiment là c'est chaud.
Alex est gentil, malgré tout, il taille, il n'arrête pas de tailler. Elad, ton sentiment par rapport aux joueurs performants que tu as vus ce soir?
Aux joueurs performants, je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé qui m'a impressionné. Hein. Franchement, depuis le début de cet Euro, il m'impressionne. Voilà, je tenais à le dire. Hein. Jules Koundé, d'habitude, qu'on ne trouve pas. Parce que déjà, il ne joue pas dans son poste de prédilection. Déjà, il n'est pas censé être latéral droit. Donc déjà, il joue latéral droit. En plus de ça, il performe en tant que latéral droit. Et en sachant que tu as Ferland Mendy sur le banc, tu vois, voilà. Mais non, franchement, il fait le taf. Lui, Aurélien Tchouaméni, aujourd'hui, ça a été bon. N'Golo Kanté, dans ses standings, ça a été bon aussi. Dans les joueurs qui performent.
Hein. N'Golo Kanté, je suis pas trop d'avis avec toi, mais bon.
Non, moi, ça va. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas été, mauvais. Voilà, il a plus été bon que mauvais. En tout cas, dans la moyenne, tu le mets, si tu mets une moyenne, dans la moyenne, tu le mets plus dans le côté des bons que dans le côté des mauvais. Parce que dans le côté des mauvais, j'en ai.
Qui a été performant? On en arrive justement. Qui a été performant pour toi, Lucas?
Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Alex. En fait, on peut couper quasiment l'équipe en deux. Le quator défensif et Maignan ont été performants. Tchouaméni a été performant. Kanté a été plutôt moyen. Et tout le reste, pour moi, ça a été...
Là, on est dans les performants.
Pas dans les performants, tous ceux qui ont été derrière, ils ont bien tenu. C'est une équipe qui est vraiment solide.
Les 5 de derrière avec le goal.
Les 5 de derrière et Tchouaméni. Mm-hmm. Et le reste, Griezmann a été un peu mieux que d'habitude, mais ça suffit pas. Non, vraiment.
Le meilleur deuxième mi-temps, je pense.
Ouais, mais même Mbappé, il a un peu plus essayé, mais c'est pas suffisant. Non, ça reste très insuffisant pour tous ceux qui sont devant.
Là, on reste dans les performants, Stéphane. Qui a été performant
déjà,
ce soir?
Si on note les joueurs, quoi, on estime les joueurs par rapport à leur nom et à leur statut. Effectivement, par exemple, pour parce que la différence, par exemple, Tchouaméni et Mbappé, pour moi, elle n'est pas énorme. Tchouaméni, il a 3 buts qui sont tout faits, dont un en première période. C'est hallucinant. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment un joueur professionnel,
Stéphane,
à 20 mètres face au, laisse-moi terminer, à 20 mètres face au but, il tire 2 mètres au-dessus des buts. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je veux dire, j'arrive pas à le comprendre. Donc, je dis que c'est pas effectivement, je suis d'accord, Malik, c'est une phrase à toi, avec le statut qu'il a, la qualité de jeu qu'il a, Mbappé devrait faire beaucoup mieux. Il a été, je mets quand même à moi dans les notes sur le site, il y a quand même Tchouaméni qui est au-dessus de Kylian Mbappé, mais de très peu, quoi, de très très peu. Maintenant, effectivement, de toute façon, quand on regarde le match, tous ceux qui ont vu le match le disent la même chose. Il y a la ligne défensive, moi, les 5 de dernière avec Mike Maignan, c'est des bons joueurs. Après, c'est plus compliqué.
Bons joueurs, mais est-ce que tu estimes qu'ils ont fait un bon match, qu'ils ont été performants?
Koundé, notamment, a fait on en parlait entre nous après. Koundé, c'est d'ailleurs même sur l'Euro, finalement, depuis le début de l'Euro, c'est vraiment, il est dans le top 3 des joueurs de l'équipe de France, alors qu'il était très, très, très critiqué au début et que tous les Français voulaient mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc, c'est assez exemplaire. Maintenant, moi, contrairement à ce qu'a dit Lucas, qu'on ne parle que des bons ou des moins bons.
Non, on arrive justement aux moyens.
Ouais, bon, je parle des moyens et des
pas. Non, on en arrive justement. Et toi, Chakenza, qui a été performant?
Bon, moi, je crois que performant, d'abord, on va débuter par Mike Maignan déjà, parce que même s'il n'a pas été concerné par tout le match, la seule fois qu'il a été vraiment consulté, il a réagi avec fermeté, il a fait preuve vraiment de concentration durant tout ce match. À chaque fois qu'ils ont eu besoin de lui, il a été le dernier rempart. Après aussi, à la défense aussi, la paire Upamecano, Saliba, vraiment, qui est impressionnante sur toute la compétition, qui concède très peu d'occasions. Au niveau du placement, c'est propre. Au niveau des relances, on a même vu qu'il a même donné une passe à Jules Koundé, après qui fait un retrait, qui n'arrive pas vraiment à conclure. On a vu aussi qu'au niveau des latéraux, c'était très fort. Au niveau de Théo Hernandez, à chaque remontée, vraiment, il apportait ce supplice. Même défensivement, il a été correct. Au niveau de Jules Koundé, avec Aurélien Tchouaméni, moi, je retiens que ces 6-là. Parce que je crois que l'entrejeu, vraiment, offensive de l'équipe de France a été très pauvre. On n'a pas vu vraiment.
On en arrive justement, on reste sur les performances pour l'instant.
Les performances, moi je
donc
crois
c'est que les 5 de derrière, oui, avec le goal. Hein, c'est bien ça. El Hadj, ton sentiment par rapport. Tu as déjà répondu. Non, tu voulais répondre justement à un propos de,
non, c'est bon,
de Stéphane.
J'ai même plus envie de répondre.
Alors, et toi, mon cher Alex aussi, t'as répondu. Hein.
Ouais, j'ai répondu.
On a tous répondu.
Je suis un peu fatigué.
Bon, concernant la réponse de Stéphane, je crois que vraiment, là, il trouve que vraiment, que peut-être, il y a des joueurs aussi, voilà, qui n'ont pas été concernés, mais c'est normal, en fait. C'est une équipe, je crois que Deschamps, déjà, vraiment, il doit revoir son système de jeu, parce que ce qui nous sort aujourd'hui, c'est.
On en arrive
pas
justement,
correct, en fait.
On en arrive à ça. On va rester justement.
En tant supporter français.
On va rester justement dans tout ce qui concerne le niveau affiché des joueurs aujourd'hui. Qui a été moyen pour vous, voire même décevant?
Alors, Alex, je commence parce que là, il y en a vraiment pas mal. Déjà, je commencerai par Deschamps. Premier Deschamps, mais ça, on en parlera sans doute après.
T'es en train de spoiler ma prochaine question.
Voilà,
là,
mais je suis désolé, Malik, mais là, j'en ai vraiment. Parce que j'étais pas là depuis le début de la compétition. Là, j'en ai vraiment lourd sur le cœur au niveau de l'équipe de France. Et sinon, Kanté moyen. Moyen bon, on peut le dire, mais sinon, non, mais Thuram, il joue avec des bottes, c'est ce que je dis depuis le départ. Thuram, c'est là, on essaie de le mettre avec deux attaquants, avec Mbappé. Malgré ça, il sait pas faire une remise, Thuram. Enfin, c'est triste, quoi. Vraiment, moi, ça me fait de la peine. Gris, même son père, il était dépité. On a vu une image, son père, il était triste. Griezmann, il est en deçà. Et en fait, Griezmann, c'est un joueur qui manque de confiance. Et je pense que Deschamps, il a pas su le gérer en le sortant et en ne le faisant pas jouer au troisième match. Et Griezmann, c'est manque de confiance, donc il est mauvais. Et sinon, c'était...
Mais c'est parce qu'il était mauvais antérieurement qu'il a pas joué le troisième match. En tout cas, qu'il a pas débuté le troisième match.
Griezmann, pour moi, il y a des joueurs en équipe de France qui doivent toujours avoir ils ont un crédit. Et pour moi, Griezmann, il a un crédit qui est plus supérieur aux autres.
Non, mais je vais faire une petite parenthèse. Mais tu dis ça pour Griezmann, mais tu dis pas la même chose pour CR7.
Mais parce que.
On parle de la France ou on parle du Portugal?
Non, c'est pas la même chose.
Sachant qu'il dit la même chose, voire pire.
C'est pour dire à Alex que justement, il est pas forcément juste aussi dans son analyse. Parce qu'il estime que CR7 ne doit pas débuter les matchs parce qu'il est pas forcément.
Mais parce que CR7, c'est en plus.
Très très jeune, alors qu'il soutient que Griezmann.
Tu peux dire que Griezmann
tous les matchs de
crédit que CR7 avec le Portugal?
C'est même pas la même chose.
Alors, s'il vous plaît,
tu peux oser.
Pas tous ensemble.
Est-ce que tu peux oser?
Pas tous ensemble. Tu me prends de court, Malik. En plus, ça n'a rien à voir parce que CR7, c'est un numéro 9.
Enfin, oh non, mais attends, un joueur qui est pas bon, pas bon. Les amis, arrêtez. Un joueur qui est pas bon, qui est en méforme, il est en méforme.
Thuram, là, tu
qu'il soit gardien de but, défenseur central, milieu de terrain, attaquant, ailier. Si t'es pas bon, t'es pas bon.
Qu'il soit pas bon, on est tous d'accord. Mais il est tellement pas aidé par les gens qui sont à côté de lui. Ils savent pas lui faire une remise. Comment tu veux qu'un joueur il soit performant? Regarde, aujourd'hui c'était Rabiot qui était au cœur du jeu. Griezmann, sur ton premier mi-temps, Rabiot il était pas très bon aussi, parce qu'il n'y a pas un joueur qui peut lui mettre une remise. Donc, c'est pour ça que moi je demande qu'on soit
plus indulgent. Mais c'est quasiment avec ces mêmes joueurs que Griezmann a étalé des performances antérieurement, les amis.
Bah non.
Moi je pense qu'il est. Même si tu regardes sa fin de saison avec son club, c'était quand même tiré par les cheveux. Soyons sincères aussi.
Pour moi, Griezmann n'a pas été bon, je suis d'accord avec toi, mais je trouve
que
ça.
Il fait pas un bon euro.
De le sanctionner, lui, surtout au troisième match, alors que t'as pas sanctionné d'autres joueurs qui méritaient plus, selon moi.
Mais tu rigoles ou quoi?
Bon, c'est ton.
Tu rigoles. Mbappé, t'es pas là, t'as vu les grosses loupées qu'il nous a fait? T'as vu les. Si aujourd'hui on se retrouve du côté gauche de ces huitièmes et quarts de finale, c'est à cause de Griezmann. C'est à cause de lui. Clairement. C'est à cause de lui. Oui, c'est à cause de Griezmann. Il ne sait pas pousser un ballon au fond des filets. Il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire une passe.
La passe de
Il ne sait pas faire une passe dans les 50 mètres.
Tu fais référence à l'action où Rabiot lui fait la passe.
Mais deux fois, mais d'accord. avant Rabiot, après Rabiot, qu'est-ce qu'il a?
Une autre
tentative. Juste après ça encore, il a une remise qui met à côté. Oui. On a vu Lukaku mettre le même ballon, au moins la cadrer. Même ça, il a pas pu la faire.
Non, je pense que c'est
non, on arrête deux secondes.
Griezmann, si on est parti du tableau.
Mais bien sûr.
Non, mais moi, c'est il a été mauvais. Mais quand si tu détailles bien les deux occasions précises là, dont on.
Il y en a trois. Moi, j'en détaille trois. Ouais, parce qu'il y en a deux coups sur coup.
La troisième, mais... je vois la première et la une première mi-temps, deuxième mi-temps. Quand il fait un contrôle et qu'il rate sa frappe après.
La première quand il.
Là, je pense qu'il est mal servi par.
D'accord. Juste après. D'accord. Juste après. On lui redonne un ballon. Ouais, il est là, et il tire à côté. Il la met à côté. Pour moi, il doit la cadrer.
Ce qui est juste incroyable, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence avec les frappes complètement ratées de Tchouaméni, qui fait un très bon match, et parce que c'est pas son rôle, je suis d'accord. Le souci,
tu sais pourquoi tu. Regarde.
Stéphane, tu termines, nous on n'a pas terminé. Il n'a pas été si mauvais. Le travail.
C'est parce que c'est un joueur du Real Madrid, Stéphane. C'est juste pour ça que t'es pas lucide.
Le travail que fait.
C'est pas son travail de marquer. Quand tu disais ça pour Fabien Ruiz, pourtant Fabien Ruiz, il loupe un ballon à moins de 1 mètre des cages. Il loupe des ballons et tu dis que c'est pas son travail.
Je dis que
et Tchouaméni doit te mettre des buts en dehors de la surface.
Il rate un but que moi-même je mets.
Tu rigoles. On aimerait bien que tu les mettes.
Stéphane, je suis bien mise, mais c'est les frappes de 20 mètres, elles sont en dehors de la surface. Me dis pas comme si c'est le même que le but de Griezmann.
Stéphane, il est à l'entrée de la surface. Non, mais juste, d'accord. C'est tout. On va pas en débattre pendant ce temps. Je dis juste qu'il y a une action où il y a un type qui s'appelle Kylian Mbappé qui dribble, qui passe en revue avec un peu de chance, quasiment la moitié de la défense de la Belgique, qui la met en retrait. Elle arrive sur un joueur qui est au point de pénalty avec le but face à lui, qui la balance 3 mètres.
Pas la même action.
Je l'ai jamais vu celle-là.
Il était aux toilettes à ce moment-là. Il parle d'une action.
Les amis, vous parlez tous ensemble, c'est inutile. Termine ton propos, Stéphane. Est-ce qu'il y a dans ce match, en première période, une action où Mbappé s'arrache sur le côté gauche, rentre dans la surface, fait un centre, qui est repoussé par quelqu'un, je crois qu'elle est repoussée par quelqu'un ou qu'elle est déviée par Griezmann, justement, qui arrive devant Tchouaméni, qui arrive et qui fout une frappe à but de vue.
Mais t'as vu la marée belge qu'il y a devant?
Il n'y a personne devant lui.
On n'a pas vu le même match. Laisse-moi rebondir maintenant, parce que t'as dit un but que toi-même tu mets, Stéphane, ça tombe bien. J'ai lancé dans le groupe pour qu'on fasse un five au bout du foot toute l'équipe, tu n'as pas répondu. Tu as vu le message, j'ai relancé, tu n'as pas répondu, donc réponds et viens nous faire part de tes talents. Profites-en pour
les affaires privées.
La famille de Kevin De Bruyne, en fait.
Non, si, mais profites-en.
Si. T'es de la famille de Kevin De Bruyne qui non. dit aux supporters.
Non, du
vous,
tout.
Si je vous invite, si vous êtes. Non, mais content,
t'as dit que tu la mets.
Non,
mais t'as dit que tu la mets. Mais
oui,
en dehors.
Là, oui, je la mets. D'accord. Je la mettais quand je joue.
D'accord. Non, non. Ah,
ça date, ça date.
Ah, maintenant ça a changé. D'accord. Maintenant ça a changé. Mais maintenant je parle même pas de ça. Je te dis juste que j'ai avant que ce match se fasse, j'avais proposé dans le groupe.
Mais ça, les voilà.
Bon, les amis, on va sortir.
Récentrons-nous.
Récentrons-nous. Allons-y sur le match.
Je finis parce que.
Ouais, mais t'es en train de parler du groupe, ça,
oui,
ça sert à rien. On parle du match.
Moi, je crois que.
Mais si, t'as donné
ton avis. Non, j'ai pas donné
ton avis. Vas-y, vas-y.
Moi, je crois que vraiment, Antoine Griezmann, en pleine confiance, ces deux occasions, il les met. Parce que oui, je crois que beaucoup. Moi, je crois que l'équipe de France est un peu émoussée, en fait. On sent des gens, Antoine Griezmann, qui n'est pas dans ses meilleurs jours, malgré qu'il ferait les déplacements qu'il faut. Mais il n'y a pas vraiment cette complicité au milieu de terrain. On a senti un Rabiot vraiment qui a pas été meilleur. Pour moi, Rabiot n'a plus sa place dans l'équipe. Parce que
il
vraiment,
sera suspendu au prochain match.
Bah oui, mais là, il n'a plus sa place. Il faudrait qu'on ramène Kamavinga. Il faudrait qu'on ramène Kamavinga, oui, au milieu de sa forme. Aujourd'hui, on a senti N'Golo Kanté qui, pour moi, vous dites qu'il était moyen, mais moi, je chéris N'Golo Kanté, il est en dessous de la moyenne. Parce qu'on n'a pas senti ce N'Golo Kanté qui faisait ses courses et tout ça, qui arrivait vraiment. Ben, il est N'Golo Kanté aujourd'hui, il n'a pas impacté le jeu.
Il est cramé.
Ben oui, il n'a pas impacté le jeu. Au cœur du jeu, on avait un Adrien Rabiot.
Il a récupéré des ballons très importants.
Il a récupéré pas mal de ballons.
Moi, je commente les matchs.
Il a récupéré les ballons. Il n'a pas impacté le jeu par ce tempo, au fait. Vous savez pourquoi N'Golo Kanté revient en équipe de France? Il revient en équipe de France parce qu'on a plus ce Pogba. On s'est dit que N'Golo Kanté.
Mais absolument pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Parce qu'on a plus ce milieu récupérateur qui puisse lui récupérer des ballons. N'Golo Kanté, quand tu l'appelles, c'est pour ses efforts physiques.
On a plus.
Il sait pas se projeter.
On a plus ce joueur vraiment qui peut dicter le tempo comme on l'a
fait. Il a jamais fait ça.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Au premier match, il sort homme du match parce que vraiment, il fait les courses qu'il faut, il apporte les ballons et tout ça. Il était tellement utile dans la phase offensive.
Il a jamais dicté le tempo.
C'est pourquoi on apporte. Même en 2018, N'Golo Kanté, qu'on le veut ou pas, la meilleure version de Pogba. Ça a été toujours avec N'Golo Kanté.
Quand N'Golo Kanté n'a pas été dicté le tempo, à la limite.
Griezmann, il dicte
même
le tempo.
Même Pogba, à la limite.
Oui, mais N'Golo Kanté, a toujours été un joueur indispensable. Et aujourd'hui, on a vu N'Golo Kanté qui n'était pas présent. Même s'il a récupéré quelques ballons, mais ce n'est pas pour ça qu'on le ramène. Parce que déjà, on a Tchouaméni qui peut faire ce taf.
On va donner la parole à Lucas.
Alors déjà, moi... ce qui m'a déçu sur ce match, encore une fois, et je le dis à chaque fois, c'est l'animation du jeu. Donc, j'ai pas envie de.
Donc, on est dans les joueurs moyens.
Les joueurs moyens, ça, mais ouais. En fait, parce que là, on a parlé de mauvais joueurs.
Ou décevant d'ailleurs.
Il n'y a aucun joueur qui est mauvais en équipe de France, fondamentalement. On crache beaucoup sur Marcus Thuram. Marcus Thuram, il est très bien utilisé à l'Inter Milan. On voit les performances qu'il arrive à nous donner. Là, par contre, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a pas d'animation. En fait, c'est à se demander quelles sont les consignes de Didier Deschamps parce que tous les joueurs, on a l'impression qu'ils sous-performent et qu'au-delà du quatuor défensif qui est bien en place,
il y a eu des petites parenthèses quand même où il y a de l'animation et même là encore, en début de deuxième mi-temps, on est d'accord ou pas?
Marcus Thuram n'assure pas.
Même dans les fulgurances où il y a de l'animation, on ne le voit pas.
C'est vrai parce que les joueurs au milieu de terrain, Kanté, on connaît son rôle, c'est un récupérateur, etc. Tchouaméni et Rabiot, les deux ensemble, tu n'as pas de créativité, il n'y a rien qui se passe. Quand en plus, Griezmann, il est sur un côté beaucoup comme aujourd'hui, écoute, t'as Thuram qui est inexistant, Mbappé qui veut juste dribbler et revenir dans l'axe, ben en fait il n'y a aucune variété dans ton jeu. Collectivement les joueurs ils sont pas connectés et ça donne des bouillies de football.
Ouais, mais vous pouvez pas dire, je suis d'accord, mais tu as tout à fait raison, je trouve que sans raison, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut dire par exemple que Tchouaméni a fait un super match quoi.
Faut que t'arrêtes,
c'est pas vrai.
Il a fait
un bon match, mais je suis désolé.
J'ai critiqué sur les matchs d'avant, sur celui-là je l'ai trouvé meilleur, il était plus disponible, il a mieux distribué le jeu.
C'est le seul joueur qui fait des transversales comparé aux autres.
C'est le seul joueur qui arrive à casser une ligne, c'est le seul joueur qui arrive à déplacer le ballon.
C'est le seul joueur qui fait ce que personne n'arrive à faire.
D'accord, mais en tout cas c'est le seul joueur que je suis d'accord, peut-être, si vous voulez, mais ce qui manque à cette équipe de France, c'est son milieu de terrain. Son milieu de terrain, il n'est pas bon. Rabiot, Kanté, Griezmann, Tchouaméni, l'ensemble, le collectif des quatre, ils ne sont pas bons.
Voilà, non, mais personne n'a dit le contraire.
Moi, je vous le dis vraiment, mais tant mieux. Alors, moi, je vous le dis. Si tu avais un super Tchouaméni version, la version justement Real Madrid, ce qu'il est capable de faire.
Ouais, mais c'est
au Real
Madrid.
Est-ce que tu vois de qui il est entouré au Real Madrid? Il est entouré des meilleurs joueurs du monde.
Ça n'est pas le cas de la planète, mais de l'univers.
Voilà. Mais tu sais que c'est la vérité. Ça peut te soulever, mais c'est la vérité.
Et là, tu gardes le micro.
Et Rabiot, ça fait un moment qu'il n'est pas à ce niveau-là.
Quels sont les joueurs qui ont été moyens, voire décevants pour toi ce soir?
Des joueurs moyens pour moi. N'Golo Kanté, il a été moyen aujourd'hui. Même si je le mets plus dans passibilité, il a été moyen. Qui d'autre a été moyen?
Rabiot.
Rabiot, ouais.
Non? Rabiot, c'est décevant. Rabiot,
il est en dessous.
Moi, c'est décevant. Moi, c'est décevant. Rabiot, c'est décevant. Thuram, c'est décevant. Mbappé, c'est décevant. Griezmann, mais c'est pire que décevant. Mais bien sûr, eux tous font partie de la descente. Pour moi, eux tous sont en dessous. Ils sont en dessous, clairement. Ils sont en dessous de leur standing. Mbappé, à chaque fois, c'est la même chose. Il récupère un ballon. Pour faire ça, 1, 2, 3, il joue arrêté. Il joue arrêté, après hop, il fait une vitesse, il s'arrête et il la donne. Il fait ça. Donc aujourd'hui, Mbappé ne me fait pas plaisir. Quand je le vois jouer, il me ramène plus ce petit truc-là où je me dis Kylian Mbappé, oui, oui, oui. Non, il a fait un seul parce truc. Que... Au final, il l'a mis au-dessus.
Tu crois pas qu'il est dépendant voilà, des autres un peu
parce qu'il ne veut plus prendre la profondeur.
Laisse-moi
terminer, s'il te plaît.
Il n'est pas dépendant des autres.
Il n'est pas que dépendant des autres. Quand il a des ballons, il faut faire les appels.
Tu l'as vu prendre la profondeur aujourd'hui ?
Non, il n'a pas pris la profondeur. Il y a un moment où il a un ballon, il le perd directement au milieu de terrain. Il récupère un ballon au milieu de terrain sur une magnifique passe d'Aurélien Tchouaméni. Et qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il loupe le ballon et après il s'arrête. Donc moi j'en ai marre de voir Mbappé perdre le ballon et s'arrêter en plus et les autres doivent cavaler pour lui. Donc c'est pour ça que Mbappé aujourd'hui prend la double peine. C'est un de mes joueurs préférés, Kylian Mbappé.
Mais je suis absolument pas d'accord avec
mais aujourd'hui, ça. Oui, mais ça c'est ton problème.
Ouais.
Mais aujourd'hui, comme je dis, Kylian Mbappé n'est pas bon, Adrien Rabiot n'est pas bon, Antoine Griezmann, et c'est super décevant.
Et puis Thuram.
Et Thuram.
Et Chekhanza. Voilà.
Je crois que depuis le début de la compétition, on a Mbappé qui est en dessous en fait. Je crois que c'est, je sais pas s'il a la tête au Real, Madrid ou quoi, mais on a Kylian Mbappé qui est pas concerné en fait. Qu'on le veut ou pas.
Parce que il a encore la tête au PSG.
Mais durant tous les matchs de poule, on n'a pas eu vraiment ce Kylian Mbappé tonitruant en fait. Je crois qu'on est en train de perdre ce Kylian Mbappé, ce qui faisait la particularité de Mbappé, c'est 1 contre 1 et tout ça, ce joueur vraiment qui pouvait vraiment apporter ce surplus à lui tout seul qui pouvait vraiment décanter une situation. On a plus ce Kylian depuis, moi je crois que depuis cette saison, même si au PSG il, oui, il fait une saison tonitruante, mais c'est
non,
pas,
non,
quand
pas tonitruant au PSG,
ouais, une bonne saison, une bonne saison, mais quand
ça
même
fait deux ans qu'il fait plus ça, les gars.
On a plus ce Kylian Mbappé
parce qu'il veut faire ce qu'il sait pas faire.
Je crois que vraiment il est plus en train de se professionnaliser dans son jeu, plus il est plus concentré sur les statistiques que vraiment qu'il nous donne du plaisir. Il va falloir qu'il puisse se remettre en cause. Je crois que vraiment il y a Didier Deschamps qui est là, il y a un staff qui est là, mais l'équipe de France vraiment ça se doit de rehausser son niveau, ça se doit vraiment de voilà, parce qu'il y a des équipes contre l'Allemagne et tout ça qui sont là, qui montrent vraiment qu'ils sont des prétendants au titre.
On va laisser les potentiels adversaires, justement on va rester sur cette équipe de France. Chekhanza, qui c'est qui n'a pas répondu? Vous êtes tellement entrecoupés que je sais pas qui c'est qui n'a pas parlé. Donc j'ai envie de vous poser la question maintenant, s'agissant de la composition de Didier Deschamps, la composition d'entrée, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis?
Du mal, forcément Lucas. Du mal, parce que il a blindé l'axe. Il y a encore une fois pas de créativité. On a vu qui a fait un petit peu de bien, qui nous a fait un peu plaisir depuis le début de l'Euro. Barcola, encore une fois, il rentre pas une minute. On peut imaginer que Kamavinga, avec son profil, il pourrait amener quelque chose d'autre aussi. Et ben non, on a Rabiot, on a Thuram, on a des joueurs qui sont athlétiques. Le système Deschamps, quoi, mais on n'a pas de créativité, on n'a pas de.
Ousmane Dembélé. Qui nous a fait un beau match, oui, c'est bien sûr, aussi. Le match dernier, c'est lui, il provoque le penalty, c'est lui sur le côté droit, il fait la fougue, et aujourd'hui il ne le met pas.
Mais vous vous rendez compte, il a fait un changement, il a juste fait rentrer Colomoigny à la place de Thuram à la 62e. Bah
après c'est un bon changement, Colomoigny
s'est qualifié.
Mais je suis d'accord avec toi,
ça joue pas bien, mais à la fin il s'est qualifié. Et le changement qu'il fait justement, c'est Colomoigny.
Et c'est ça le problème, c'est du coup il va se
déclencher
cette frappe contrée. C'est ça le problème. Mais peu importe la composition qu'il met, en fait ça ne changera rien parce qu'il bride les joueurs, parce que les joueurs ils ne font pas ce qu'ils savent faire en fait. Un Théo Hernandez, on peut en penser tout le bien ce qu'il fait, parce qu'il remplit la case des champs, mais il est tellement en deçà de ce qu'il fait en club, Théo Hernandez. Il est 100% bridé, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi j'en ai marre, ça fait 13 ans que je me continue ça.
Deschamps, c'est un sélectionneur de tournoi. Il est là pour aller le plus loin possible, voire même gagner cette coupe. On n'est pas en championnat.
Ça marche pas tout le temps, et c'est peut-être la fin du système Deschamps.
Au moins il perd au tir au but, ou peut-être, tu vois.
Moi, je préfère perdre avec du jeu sur une franche défaite que perdre au tir au but en ayant repoussé l'échéance comme ça. Mais là, en fait, c'est un peu.
Et gagner, tu préfères ça passe gagner ça. À
oui, bien sûr. Mais ça peut arriver. Mais là, on dirait un peu la Grèce de 2004, quand même. Avec des joueurs comme ça, pour moi, tu dois assumer. Tu joues comme ça quand t'as pas le choix. Quand t'as un certain effectif, tu dois assumer. Tu dois avoir un certain standing de jeu.
Donc, pour te résumer, t'as pas aimé la composition d'équipe d'entrée de Didier Deschamps.
Je l'aime pas depuis le début. Et ce soir, c'est vraiment la pire.
Mais la composition. on en parlait avec Alexandre dans l'avant-match, la composition, ça veut pas dire grand-chose, en fait. C'est surtout la façon de jouer, quoi. Mais c'est vrai que là, c'était hallucinant, quoi, de voir Griezmann passer toute la première mi-temps ailier droit, avec Adrien Rabiot, qui en plus avait des difficultés, qui jouait quasiment numéro 10. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant, quoi. Là, on est d'accord, comme a dit Lucas, il met, je redis, c'est pour ça que cette compo-là, à la limite, pourquoi pas contre l'Espagne contre une équipe où il faut étouffer le milieu de terrain, manger, comme je le disais tout à l'heure, le milieu de terrain. Mais dans un match comme ça, où t'es normalement censé être plus fort, moi, je la comprends pas, quoi. Alors, je comprends pas, par exemple, pourquoi, quitte à faire ça, c'est-à-dire un 4-3-3 pratiquement, ou un 4-2-1 Rabiot et 3 devant, pourquoi, effectivement, il a pas mis Ousmane Dembélé particulièrement à la place de Griezmann. Là, j'avoue, je comprends pas. Mmh. Parce que peut-être effectivement que Griezmann a bien défendu, s'il a fait quelque chose de correct ce soir, c'est de défendre. Mais c'est vrai, non, moi j'ai pas du tout aimé. Et c'est vrai que on le verra pas à 7 euros, quoi qu'il arrive. Qu'on le gagne, qu'on le perde en quart de finale, qu'on gagne l'euro, on le verra pas. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a besoin de l'équipe de France et des nouveaux joueurs, effectivement, comme vous avez l'air de le penser, à Camavinga à la place de Rabiot, qui est plus technique, plus porté vers l'avant, peut-être aussi un Zaïre Emery à la place d'un autre qui est à l'avenir qui apporte du peps, qui va du jeu vers l'avant, qui est tonique, qui apporte des choses, quoi, parce que c'est des joueurs qui sont capables de faire ça. Mm-hmm. Maintenant, après, Griezmann, le problème de Griezmann, là, on disait par rapport à Ronaldo de pas le sortir et tout, le problème qu'il a Deschamps, c'est que de toute façon Deschamps il est coincé, il a pas d'autres joueurs qui c'est pour ça que c'est un problème complètement différent. Il n'a pas d'autres joueurs.
Mais quand tu fais ta sélection, tu penses un peu à tout ça, quand même.
Ouais, bah moi.
Quand tu prends Barcola, je suppose que tu te dis si Mbappé a un souci.
Mais il pense au groupe.
J'ai un plan B. Quand tu prends Griezmann, peut-être que tu te dis que Camavinga peut potentiellement remplacer Griezmann. C'est peut-être ce qu'on verra au prochain match, je ne sais pas. Justement, que pensez-vous de la composition d'équipe de Didier Deschamps et Ladia?
Franchement, j'en pense pas grand-chose. Hein. Pour moi, un 4-4-2, quand tu le mets, c'est vraiment pour mettre à l'aise Marcus Thuram, que tu vois que depuis le début, il ne te rend pas cette aisance. Et même Mbappé qui n'arrive pas à jouer aussi dans ce registre-là. Pourquoi pas essayer de repartir sur un 4-3-3, tu mets Colomouani en pointe, à gauche tu mets... pourquoi pas tenter? Parce que quand tu fais pas rentrer Barcola ou quand tu ne fais pas jouer Barcola, pourquoi ne pas mettre Kylian Mbappé à gauche dans son poste de prédilection? Pourquoi ne pas le mettre à gauche? Je ne comprends pas. Voilà, tu mets un attaque en pointe pour au final, voilà, et tu te passes d'un joueur qui a fait sa meilleure prestation de l'Euro le match dernier, Ousmane Dembélé, et que tu ne mets pas ce match-là. Je ne comprends pas. Voilà, franchement, je ne comprends pas.
Je pense que c'était peut-être pour les replis défensifs, en fait.
Oui, il nous a montré qu'il était capable.
Oui, Barcola,
il les fait.
Ousmane Dembélé, même.
Ousmane Dembélé défend très mal, surtout aux abords de la surface.
Moi, je pense que vraiment cette formation n'est pas adéquate à l'équipe de France. Je crois que la meilleure formation que Deschamps nous a donnée, c'était le 4-2-3-1. C'est avec ça qu'on a été champion du monde. C'est avec ça vraiment qu'on
a... Mais est-ce que les joueurs ont la même forme?
Oui, même si vraiment tu n'as plus le même joueur, mais Deschamps, c'est quelqu'un, vraiment, c'est un fin tacticien, en fait. Avec Deschamps, on est sûr que vraiment, on n'aura pas du jeu flamboyant. Ça, on le savait tous depuis pas mal de temps. Il nous a habitués à ça, à une équipe vraiment ultra défensive, avec des transactions rapides, des comptes et tout ça. Donc, à un moment donné, on n'est pas un peu surpris. Mais vraiment, dans sa composition d'équipe, Marcus Thuram, je crois que vraiment, oui, c'est pas le top, c'est vraiment, il peut pas être prétendu titulaire, parce que oui, il lui a donné sa chance, il a pas pu la saisir, donc à un moment donné, ouais, il va falloir passer à autre chose. Un Adrien Rabiot qui est pas vraiment concerné par ce 4-4-2, vraiment c'est pas le schéma qui lui est le plus utile, en fait.
Donc grosso modo, t'as pas aimé la
composition d'équipe? Ouais, j'ai pas aimé la compo, parce que j'ai vu qu'il y avait pas vraiment cette symbiose, il y avait pas vraiment ce jeu, vraiment, il y avait pas vraiment cette communication, vraiment, et tout ça, il y avait pas vraiment ces phases de jeu, vraiment, qu'on aime bien et tout ça, où on avait un Griezmann vraiment qui dézonnait, qui pouvait apporter le surplus. Souvent, c'est long ballon et tout ça, qui pouvait remonter un bloc. Quand on était en difficulté, Griezmann, habituellement, c'est lui qui pouvait porter le ballon vers l'avant. Mais c'est des choses qu'on a très peu vues. Et on a vu aussi que les milieux de terrain, hormis Tchouaméni, ils n'ont pas été concernés par le match. Hormis Tchouaméni, N'Golo Kanté, qui arrivait vraiment par moment à ressortir le ballon.
Là, tu vas citer tout le monde, mais là.
Non, mais
ils ont... le milieu de terrain n'est pas bon, cites N'Golo.
Oui, mais quand je dis N'Golo, quand je dis N'Golo, vraiment, c'est lui au moins, après Tchouaméni au moins, qui a réussi à essayer quelque chose. Si on a vu Rabiot vraiment qui n'était pas du tout bon, qui n'a pas été du tout concerné, qui était à l'ouest complètement.
Alors, les amis, est-ce que vous avez des moments particuliers à vraiment oublier?
lors de ce match, des moments vraiment que vous avez envie de faire disparaître de votre mémoire.
La première mi-temps, toute la première mi-temps.
Mais tout le match.
Ouais, tout le match.
Alex, il avait de la réserve. Il fallait qu'il vienne.
Mais non, mais parce qu'en fait, moi, ça m'énerve. En fait, faut vous compreniez que là, on parle en tant qu'observateur de foot. On voit des centaines de matchs de foot par an. Certes, on est supporter, donc bien évidemment, je suis content qu'on gagne, ça me fait plaisir. Mais ça fait 13 ans qu'on voit des purges, donc on est en droit de critiquer ce que fait Deschamps. Bien sûr que j'ai envie qu'il gagne l'équipe de France et que je suis content quand il gagne. Mais quand tu vois des matchs comme ça, quand pendant une heure et demie, tu te fais chier, bah, au bout d'un moment, c'est insupportable.
Quand je parle d'oubli, en fait, je veux dire, dès lors que, imagine, Deschamps arrive au bout.
Mais moi, là, je vais pas oublier. Moi,
je vous jure que je vais pas oublier.
Non, mais je sais pourquoi je vous pose la question. Je vous pose cette question parce que, tout simplement, à chaque fois qu'on se retrouve face à des adversaires, on a toujours l'impression qu'on va leur mettre 3-0, 4-0.
On oublie
le contenu de nos matchs qui sont passés depuis 2 ans, 4 ans, 5 ans.
Tu nous as posé des questions avant,
non, mais je te jure, à chaque fois, on me dit « Oh non, on va les balayer 3-0 », parce qu'on oublie les contenus des matchs, parce que très souvent, on arrive au bout.
On n'a plus les mêmes joueurs.
Regarde ces dernières années, on est quand même arrivé au bout. Finale, demi-finale, gagné, tir au but, perdu. Tu vois, on arrive tellement au bout qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on va écraser les adversaires. Regarde ce qui se passe ce soir. Tu joues pas bien. Mais malgré tout, tu te qualifies.
Oui, c'est pour ça que mon discours, je comprends qu'il soit pas entendable.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on retient finalement
les victoires,
nos qualifications tour après tour, quitte à aller même jusqu'en finale. Bah, c'est ce qui nous met en confiance. Mais au niveau des contenus, c'est assez soporifique quand même.
Donc le résumé, effectivement, moi, je suis pas d'accord quand tu dis que ça fait 13 ans qu'on se tape des matchs comme ça. C'est que ça fait 13 ans qu'on a cette philosophie de jeu et ce jeu-là. Mais c'était pas des matchs comme ça parce que c'était d'autres joueurs. Notamment, par exemple, quelqu'un qui est très aimé ici, c'est Olivier Giroud. Le fait que Olivier Giroud ne soit plus là ou soit sur le banc, quoi, ne joue plus, ça change aussi complètement la façon de jouer de l'équipe de France, forcément, quoi. Du jeu de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il avait basé quand même ça. Tout le monde a dit, il a fait une super Coupe du Monde 2018. Il marque pas un but, mais il est très, très utile.
Ouais, t'as personne à la réception des centres, quoi.
Voilà.
Personne.
Et puis en remise et tout, quoi. Je me souviens pas, moi, des buts dans le détail. Mais, des matchs, dans le détail avec Olivier Giroud. Mais il a porté quand même énormément. Maintenant, le problème de Didier Deschamps, c'est qu'il a pas trouvé ça. Et effectivement, il a peut-être pas trouvé d'autres animations, d'autres façons de jouer. On arrive quand même à l'Euro. Ça fait quand même assez longtemps. Moi, je me rappelle de mon premier article sur le site. Il date d'il y a peut-être 6 mois, 1 an, où je disais, faute de trouver un successeur à Olivier Giroud, Didier Deschamps va être obligé de mettre Kylian Mbappé numéro 9, quoi. Parce qu'il n'y a personne qui va prendre la succession. Alors, j'avais tort, parce que ça ne marche pas particulièrement bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne. Et là, le deuxième problème qu'on a aujourd'hui, c'est on a Griezmann qui est en dedans. Donc, il y a peut-être eu une bascule et tout que Didier Deschamps, il a posé. On va voir si, par exemple, le match contre le quart de finale, il va oser d'une manière ou d'une autre, bon, ça sera pas le même genre de match, quoi. Ça dépend contre qui on tombe.
Portugal, surtout, vraisemblablement.
Si c'est le Portugal, ça sera pas un bloc bas, donc je pense qu'effectivement ça pourrait être intéressant, quoi. Il va peut-être moins changer son équipe.
De toute façon, à chaque fois que l'équipe de France a hissé son niveau de jeu, c'est qu'elle a été menée au score. Elle n'avait plus le choix.
Oui.
C'est là où l'équipe de France commence à jouer.
C'est-à-dire,
on est toujours dans cette réaction, tout le temps. On réagit. On prend jamais le jeu à notre compte du début à la fin.
On prend jamais
même en début de match,
premier.
Même ce match-là,
soir. On n'a jamais pris l'initiative en premier.
Au tout début, les Belges nous avaient laissé le ballon. On a l'impression que ça nous gênait. Ça nous gênait d'avoir le ballon. Ouais. Donc, je pense que c'est une mentalité. Et je pense que cette équipe de France est tout simplement à l'image de son sélectionneur. Les amis, rapidement, côté belge, quelles ont été vos satisfactions et pourquoi pas vos déceptions ?
Moi, j'allais dire, je me suis planté sur la Belgique. Parce que franchement, une des pires équipes du tournoi, mais nul, quoi. On fait 10 passes derrière et on balance un long ballon devant.
Ils étaient à deux doigts de nous ramener en prolongation, voire au tir au but.
Peu importe, hein. Même de marquer, peut-être. Genre, je sais pas, mais j'aurais été quand même dégoûté. Alors là, on serait tombé quand même bien bas parce que c'est incroyable. Alors, un peu à la fin, effectivement, il y a cette frappe de Bruyne. Mais De Bruyne, par exemple, à un moment, je crois qu'il était même plus sur le terrain, avant que justement il fasse cette frappe. cette grosse frappe. Ouais, quoi. Il a été inexistant. Il y a Doku qui s'est un peu battu, quoi, mais qui a été, sauf à la fin, il est passé face à Doku, face à Koundé, pardon, dans les 10 dernières minutes. Sinon, avant, il n'est jamais passé.
Oui, mais il a fait beaucoup de travail défensif. Hein. Moi, je crois que... côté belge, satisfaction, déception,
Doku, ça a été le mieux belge, en fait. Et en plus, des flops, je crois qu'on peut mettre Kevin De Bruyne là-dedans, Toby Alderweireld aussi, qui est concerné par le but de Colomani et tout ça. Voilà, oui, il y a aussi Loïc Openda. Il y a aussi le milieu de terrain belge aussi, qui n'a pas été un peu comme on avait l'habitude. En 2018, ils nous ont créé beaucoup de soucis avec le milieu de terrain.
Onana a fait plutôt un bon match, non?
Onana, je crois que c'est moins, en fait. C'est pas le Onana qu'on a l'habitude de voir, en fait. C'est pas le Onana vraiment qui pouvait vraiment, comme on dit, créer vraiment des soucis à l'entrejeu français. On n'a pas beaucoup vu ça. Parce que vu aussi le rendement de Kevin De Bruyne, ça peut aussi affecter les autres milieux de terrain. Parce que si tu as un cadeau comme Kevin De Bruyne vraiment qui n'est pas là-dedans, mais les autres, ils s'y sentent concernés, en fait. Ça peut avoir des répercussions.
Lucas, ton sentiment côté belge.
La Belgique, déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi faible. Je suis d'accord avec Stéphane sur le fait qu'on a une Belgique qui est absolument minable sur le tournoi. Il n'y a aucun jeu, il n'y a aucune solution. De Bruyne notamment. Sur ce match-là, pareil, je trouve que le gardien a fait son match. Même s'il n'a pas eu grand chose à faire, mais voilà, il a été rassurant dans ses prises de balles. Et sinon, ouais, Doku et Onana au milieu. Et sinon, vraiment mauvais. Et je ne suis pas étonné parce qu'il y a des joueurs qu'on connaît, en fait. Ils ont beau être internationaux, notamment les joueurs qu'on a vus en Ligue 1, les Faes, les Théâtre. Moi, c'est des joueurs qui ne m'ont jamais impressionné en Ligue 1. Ils valent cher parce qu'ils sont jeunes encore et qu'ils ont soi-disant du potentiel. Mais je les vois souvent dépassés, souvent mauvais. Et donc là, les voir en sélection titulaire, que la sélection soit mauvaise, ça ne m'étonne pas. C'est juste mauvais, la Belgique, c'est tout.
Eladj, côté belge.
Ouais, bah moi, côté belge, j'attendais rien de fou, hein, parce que je le disais depuis le début que la Belgique, c'était un peu à l'image de l'Italie. On me prenait un peu comme un fou. Hein, on me disait, voilà, tant veux à cette équipe de Belgique.
Tu disais que l'Italie était bien meilleure.
Non, je disais juste qu'elle était meilleure, qu'elle était au-dessus. Ouais, bah, qu'elle était au-dessus, mais que c'était la même merde. Excusez-moi du terme, mais je disais que c'était la même merde. Voilà, et on l'a vu là encore clairement, voilà. C'est moche, c'est
merde,
rien.
Merde,
voilà.
C'est un peu fort quand même. Oui,
bah, non, j'ai proposé vraiment ça.
C'est des joueurs, c'est pas bon, c'est pas bon.
C'est horrible. Non, c'est pas bon, c'est pas beau. Du coup, c'est horrible et ça gagne pas.
Et c'est pas efficace. En plus.
Voilà, donc du coup, c'est. Malik, t'appelles ça comment? Sérieusement, regarde toi-même du complément.
Non, c'est pas ça. C'est que le mot merde, on est à la radio.
Oui, non, mais quand je dis, excusez-moi du terme, quand je dis la même merde, c'est pour dire que c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose, c'est kiff. Et même l'Italie, ont produit du meilleur jeu par moment. Et Belgique, dans ces 3-4 matchs, ils n'ont rien produit, ils n'ont pas été efficaces, ils ne sont pas bons. Aujourd'hui, moi, celui qui m'a vraiment déçu, bon, celui qui est au-dessus, je pense que c'est Doku, on l'a tous dit. Hein. Maintenant, celui qui est en dessous, réellement, là, moi, je pense à Lukaku, qui aura marqué 0 but dans cet Euro, avec 3 buts refusés. Voilà, pour des hors-jeux.
Dont
pour
deux qui étaient quand même très très limites.
Ah, oui, mais c'est quand même refusé.
Ce
qu'on retient, c'est que Lukaku a marqué 0 but. Kevin De Bruyne a fait 0 passes décisives.
Plus Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne ne me choque même plus avec la Belgique. C'est un autre joueur. Ça n'est pas le joueur de Manchester City.
Bien sûr, ça a toujours été, mais à ce niveau-là quand même.
Et là, je comprends mieux pourquoi Courtois ne s'est même pas donné la peine de venir.
Non, clairement, il faut des
avis. C'est mon avis.
J'adore Courtois.
Parce que depuis le début, je disais Courtois, il sait qu'il va rien gagner avec la Belgique. Non, du coup, il va pas se fatiguer à venir. Il va rester dans le meilleur club del mundo.
Tu ramènes le Real partout.
Comme disait Darius, un bon potentiel capitaine ne refuse pas la sélection pour une question.
Mais c'est pas le capitaine.
Pour une question de brassard, justement, pour une question de brassard, tu refuses pas ta sélection.
Pas que ça. Il était blessé.
Alex. Côté belge, ton sentiment.
Moi, je suis David avec Ella. Je sais que je ne m'attendais pas à une grosse compétition de la Belgique. Hein. Ils sont en passation générationnelle. Il y a beaucoup de joueurs qui sont absents des anciennes compétitions. Donc, on a cité Courtois. Il y a Hazard. Bon, ça fait un moment maintenant. Mais il y a Thomas Meunier, même son Thorgan Hazard. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus là maintenant.
Mertens.
Maintenant, je veux dire, la défense, elle est. Il y a toujours Vertonghen et Alderweireld. Ça fait 12 ans qu'ils sont là.
Fellaini
aussi.
Il y en a plus qui sont plus à l'écart.
Vitzel, enfin voilà.
Tillmans,
il a pas joué, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la Belgique.
Il a joué. Vertonghen, par exemple, en défense centrale.
Les amis, vous parlez tous ensemble. La parole est à Alex.
La Belgique a été décevante tout le tournoi, ça me surprend pas. Et c'est pour ça que j'en veux encore plus à l'équipe de France, à Didier Deschamps. Mais en dehors de ça, voilà, Doku qui était au-dessus.
dans l'ensemble du tournoi, même s'il a fait l'erreur, voilà, on en parlait au premier but qui se sont pris, mais à part ça, il a fait un bon tournoi Doku. Sinon, ouais, Onana, qu'on peut peut-être un peu mettre, Castells aussi, qui a fait des bonnes interventions, serein dans son jeu aérien, il a remporté pas mal de duels aériens, mais sinon, franchement, c'était très très pauvre la Belgique, hein. rien de...
Le coach à remettre
et
en cause.
Coach très timide aussi. Hein. Très timide.
Et maintenant qu'on est qualifié justement pour les quarts de finale, hein, quid de l'adversaire prochain, les amis, ce sera soit le Portugal ou la Slovénie. Hein. Slovénie, pardon, de mémoire. Alors, on part du principe que c'est le Portugal.
Oui.
Sacré client en face. Hein. C'est un autre niveau.
Ouais, une armada,
je pense que sur le terrain, de ce qu'on a vu depuis le début de l'Euro, ça va être l'adversaire le plus... difficile.
Mais je crois que
tu mets là, le Portugal ne fait pas un excellent Euro pour l'instant. On est quand même d'accord. Ils gagnent un match en marquant dans les arrêts de jeu. Ils perdent un autre match. Et il faut pas un très bel Euro. Il faut pas non plus.
Il y a deux matchs. Ils mettent une fessée monumentale, que ça soit dans le jeu et que ça soit en termes de but, parce qu'ils mettent 3-0 à la Turquie, voilà, qui ont battu la Géorgie. La Géorgie ont battu.
T'aimes bien les fessées.
Merci. Attends, faut préciser.
C'est vrai. C'est décevant par rapport à quoi? C'était au niveau de l'équipe de France.
Non, j'ai pas dit décevant. Ah non, je n'ai pas dit prononcer ce mot. Je dis
ils ont marqué la dernière seconde comme si ça faisait pas partie d'un match.
Ils font pas
un match qu'ils ont maîtrisé de bout en bout. C'est faux. Un match qu'ils ont maîtrisé de bout en bout quand ils ont marqué la dernière seconde, c'est
dans tous les cas, les amis.
Un match qu'ils ont maîtrisé de bout en bout face à la Tchéquie.
Si vous regardez bien, depuis le
début de 7 euros. Ils prennent un but sur un seul tir de la Tchéquie. Non mais.
Depuis le début de 7 euros, le niveau même de ce championnat d'Europe n'est pas élevé.
Donc,
chercher une équipe aujourd'hui qui.
Il y en a une, si l'Espagne.
Qui surplombe un peu tout.
Il y a l'Espagne qui surplombe tout.
Le collectif espagnol, moi j'attends de voir déjà face à l'Allemagne.
Sinon, on donnerait le titre tout de suite à l'Espagne.
C'est l'équipe qui joue le mieux au football.
Tu as dit, Malik, pour l'instant sur ce qu'on a vu dans cet Euro, c'est la meilleure équipe de l'Euro. Et je ils ont pour moi, ils n'ont pas surdominé, ils n'ont pas fait un excellent début d'Euro. Je les mettais parmi mes favoris. Je trouve que sur le papier,
on parle du Portugal.
Je pense que sur le papier, c'est un des meilleurs effectifs qui est présent à l'Euro, comme à la Coupe du Monde 2022. Je l'avais dit avant, quoi.
Comme l'équipe de France aussi d'ailleurs.
Des meilleurs effectifs, mais encore meilleur sur le papier, l'effectif
du
Portugal avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. Il y en a toujours un autre encore.
C'est lui qui me fait
la défense. Pépé, pour moi, c'est peut-être un peu, même si on.
Les amis, il faut qu'on avance rapidement. Le Portugal, potentiel adversaire des Bleus, qu'est-ce que vous en pensez rapidement, Chakenza?
Le Portugal, vraiment, c'est une armada, qu'on le veuille ou pas. C'est fluide dans le jeu et tout ça. Et c'est une équipe jeune, peut-être, hormis deux vétérans ou trois, quelque chose, par exemple. Mais c'est une équipe qui est très fluide, qui joue bien au ballon et tout ça. Et on sent que vraiment, c'est un collectif qui est concerné. Tous les joueurs sont concernés. Même les remplaçants, quand ils rentrent, ils font de bonnes prestations. Peut-être hormis Cristiano, qui est un peu en dessous. Mais par rapport à sa gloire, ils sont au palmarès, donc il l'est. Mais le Portugal, vraiment, c'est un sérieux prétendant au titre.
Alex ?
Oui, je partage l'avis de Chekenza. Un peu moins dit tirambique quand même, mais... Bon, en fait, je suis entre les deux, entre Chekenza et Stéphane, c'est-à-dire que le Portugal fait un euro correct, ils font le strict minimum, ils font ce qu'ils ont à faire, mais... Je pense qu'ils sont prêts à élever le niveau de jeu, ce que nous on n'est pas prêts de faire, je pense. Donc du coup, ça va être un match très compliqué, je pense, le Portugal.
Il n'a pas encore gagné le match. Je précise juste
pour
les gens qui nous écoutent.
C'est vrai que la
Portugal,
sur le Portugal,
il n'a pas eu lieu.
Oui, on part du principe que le favori gagnerait. Bon, à suivre. Elle a ton sentiment sur notre potentiel adversaire, le Portugal.
Un sentiment, c'est faudrait faire très attention, parce qu'on sait que Portugal, c'est une équipe qui propose du jeu, c'est une équipe qui ont des remplaçants, que le coach n'hésite pas à faire des changements, n'hésite pas à ramener cette fougue qui manque du côté des Bleus. Et du coup, faudrait faire attention, parce qu'à tous les postes, vraiment à tous les postes, à part au poste de gardien, je pourrais dire, du côté portugais, tous les autres postes sont doublés, voire triplés, et de très bons joueurs. De joueurs de haut calibre, du coup, faudrait faire attention.
Lucas,
le Portugal, moi, je trouve qu'ils sont sérieux. On n'attend pas plus de pour le moment. Je trouve que quand même la victoire contre la Turquie a montré quand même qu'ils étaient là. Eux, ils arrivaient à marquer des buts dans le jeu, contrairement à l'équipe de France. Et non, c'est un adversaire très sérieux. Mais après, la France, avec sa relative Son, l'ennui dans lequel elle plonge ses adversaires, elle peut créer la surprise aussi. Mmh. Et la France peut tout à fait se défaire du Portugal, mais ce sera pas un beau match. Quoi.
Surtout que je redis, il y a plus merci, l'adversaire.
Non, non, il faut qu'on avance, les amis.
J'ai un truc que je voulais dire. J'ai l'impression que l'équipe de France, ils ont tendance à dormir les adversaires. Parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois.
Chacun, on a fini avec l'équipe de France, il faut qu'on avance. Il est 48. Merci justement pour tes lumières. S'agissant toujours des huitièmes de finale, les amis, en l'Espagne, donc qualifiée face à la Géorgie, 4 buts à 1. L'Angleterre qui a battu et donc éliminé la Slovaquie après prolongation, 2 buts à 1. L'étonnante Suisse a éliminé l'Italie, 2 buts à 0. Et puis le pays organisateur de cet Euro 2024, l'Allemagne, a éliminé les Danois, 2 buts à 0. Et puis ce soir, donc, dans exactement 12 minutes, donc du côté de Francfort, Portugal, Slovénie, on en parlait, on part du principe, hein, encore une fois, que le Portugal, sur le papier favori, l'emporterait. C'est donc une affaire à suivre. Donc demain, mardi 2 juillet, on aura donc Roumanie, Pays-Bas et Autriche, Turquie. Là-dessus, j'ai envie d'avoir vos pronostics, Stéphane. Roumanie, Pays-Bas, qui se qualifie?
Bah, je pense que ça va être quand même les Pays-Bas qui vont se qualifier, même si je les vois pas très haut, mais bon.
Et toi, Chekenza, Roumanie, Pays-Bas?
2-0 pour les Pays-Bas.
Et toi, Alex?
Match compliqué mine de rien parce que les Pays-Bas c'est pas incroyable non plus, mais je pense que les Pays-Bas vont se qualifier
malgré tout. Eladj,
moi je pense que la Roumanie peuvent créer la surprise là-bas,
genre tir au but, un truc comme ça.
Ouais, même dans le match.
Ouais, ça c'est clair,
même
ça,
dans le match, même dans le match.
Et puis donc Lucas, Roumanie Pays-Bas,
moi je dis surprise, Roumanie gagne.
Ah ouais,
Roumanie gagne 1-0, un truc comme ça. Roumanie va battre les Pays-Bas,
pourquoi pas. Autriche Turquie demain, ça c'est...
Ça, c'est le match le plus disputé, en fait. Parce que les deux équipes ont
ton,
la même
ton
chance.
Ton pronostic.
Mon pronostic, je vois la Turquie. J'aimerais voir la Turquie vraiment à cause...
Donc, pour toi, c'est la Turquie.
Oui, 1-0 pour la Turquie.
Et toi,
Autriche.
Autriche ?
Ouais.
Turquie.
Turquie ?
Mm-hmm.
Bon, je fais confiance aux Autrichiens, c'est fou, mais je sais pas. Et toi, Eladj ?
Ouais, moi, je vois Autriche leur mettre une fessée, hein, vraiment une déculottée.
Bah, moi aussi, je pense.
Moi, je suis
un plus 2,
toi,
quoi.
Moi, ouais, je pense à un bon 2-0, voire un 3-1.
La Turquie, attention, c'est pas...
Ils ont un vivier.
Alex,
ils ont beau avoir un vivier, c'est pas...
Alex, toi, tu...
Ah non, l'Autriche, oui.
L'Autriche aussi. L'Autriche. Donc, on est d'accord, les amis. À présent, on va parler rapidement de l'Olympique de Marseille, la signature de De Zerbi, enfin, pour 3 ans. Qu'est-ce que cela vous... Non, je suis pas content, ni mécontent.
Continue.
Je suis curieux plutôt. Ouais, c'est plutôt le mot, je suis curieux de voir.
Moi je suis excité parce que c'est un club que j'apprécie un peu, l'OM, mais je suis excité parce que je pose des réserves parce que déjà il faut voir quel effectif on va lui mettre à disposition, si on va sortir les moyens, parce que là l'effectif de Marseille il est vraiment à refaire parce qu'il y a des joueurs vraiment qui sont catastrophiques. Donc si on laisse travailler aussi, parce que la durée de vie d'un entraîneur à Marseille c'est 2 ans maximum. Donc si on laisse travailler...
Il a signé pour 3 ans au passage.
Il a signé pour 3 ans, mais bon, voilà. Donc si on laisse travailler, pourquoi pas, si, comment il s'appelle, Rachid Zerwal, il ne fait pas n'importe quoi et qui laisse les coachs travailler, pourquoi pas. Donc ouais, non, je suis plutôt excité en vrai. Je pense que c'est le meilleur nom que pouvait avoir l'OM.
Qu'on sait ça aussi sur les tablettes, cela dit. Ella, ton sentiment avec la signature qui arrive enfin?
Ouais, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour le championnat français, pour la Ligue 1 et... pour cette équipe de Marseille aussi. Maintenant, j'espère qu'ils feront un bon mercato parce qu'ils ont un bel entraîneur. Mais maintenant, il faut que le collectif suive et du moins, il faut que l'effectif suive aussi. Du coup, j'espère qu'ils pourront faire un bon mercato et qu'ils pourront appliquer son plan de jeu comme il l'a fait à Brighton et à Sassuolo.
Lucas ?
Je rejoins ce qu'ont dit les collègues. Et surtout, il faut savoir que Marseille a quand même donne l'impression de vouloir lui donner les clés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pris Brassier et Ismaël Koné pour répondre à son football, parce qu'on sait qu'il a un football exigeant qui est particulier. Donc moi, je trouve que c'est effectivement une très très bonne nouvelle pour le foot français. Je suis assez enthousiaste, j'ai envie de voir, parce que le foot français a besoin d'un grand OM pour faire rêver un petit peu tout le monde. Et j'ai bon espoir que ce soit une belle saison et qu'on ait des beaux résultats de l'OM cette année.
Chekenza ?
Oui, Roberto De Zerbi, quand même, c'est un bon nom. On espère vraiment qu'il aura les mains libres pour pouvoir travailler, parce que ses prédécesseurs n'ont pas eu cette chance-là. Je sais qu'un entraîneur de ce calibre-là, vraiment, quand il arrive, il va imposer le respect et tout ça. S'il a les mains libres, il risque de faire une très bonne saison. Après, on souhaite tous revoir un grand Olympique de Marseille pour qu'il y ait une nouvelle rivalité entre le PSG et l'OM. Ça ferait vraiment plaisir aux amateurs de foot en France. Non, sincèrement, le football français, c'est pauvre.
Stéphane ?
Oui, bah moi, je trouve qu'il faut...
La balle perdue, tu sais.
Moi, je trouve qu'il ne faut pas s'emballer non plus, parce que, comme on l'a dit, De Zerbi, c'est un peu comme une pépite, on va dire, pour les joueurs. Hein. C'est un joueur t'as un entraîneur qui est très prometteur et tout, mais qui pour l'instant n'a strictement jamais rien fait. Donc, si ça se passe mal, s'il n'a pas les joueurs qu'il faut à Marseille et que ça commence à mal se passer, ça va alors là, puissance 10, lui revenir dans la figure. De toute façon, il n'a jamais rien gagné. Le maximum qu'il a fait, c'est 7e, je crois, avec...
Avec Brighton.
Avec, non, Brighton, il a fait 6e. Ouais, Sassuolo, il a fait 7e. Donc, s'il a fait qui joue bien, donc c'est quelqu'un qui est très compétent. Maintenant, c'est comme tout à l'heure, on parlait de composition d'équipe. Hein. Si, c'est bien d'avoir deux herbis, mais si tu lui donnes 3 chèvres et 2 moutons pour faire son équipe, il n'arrivera jamais à la faire performer, son équipe. Hein.
Et Mbanya, c'est une chèvre ou un mouton?
Bah, déjà, il a déjà dit, c'est une des premières choses qu'il a dit, c'est qu'il voulait qu'il parte.
Moi, j'ai une question. C'est déjà une bonne idée. Stéphane, si t'arrives pas à être hypé là, quand est-ce qu'on s'en enthousiaste en fait? Parce que là, quand même, c'est quelque chose. C'est quand même mieux que ce que Marseille pouvait espérer.
Mais je peux comprendre qu'il pose des réserves, Stéphane. Bah, parce qu'il faut juste laisser travailler.
Tout le temps des réserves. Bah,
Conseil Sao, par exemple.
On s'enthousiasme quand? Moi, j'étais enthousiaste aussi pour Conseil Sao. Mais là, Marseille, ils ont fait une année avec 4 coachs. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ça pouvait être la catastrophe. Ils ont récupéré 2 herbis. C'est quand même quelque chose.
Mais c'est bien, t'as tout à fait raison, mais c'est bien la preuve. Comme moi, parce que je vais t'expliquer juste pourquoi, parce que moi, je pense que depuis qu'il est président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria fait n'importe quoi avec les joueurs et tout ça. Donc, que c'est pas un président. Mais alors, si jamais il change, d'accord, je pense un peu pareil d'Al-Khelaifi au Paris Saint-Germain. S'il est en train de changer depuis l'année dernière avec Luis Enrique qui le laisse travailler et tout, oui, bah pour De Zerbi, c'est un peu la même chose. Si on continue à faire pareil, à prendre des joueurs qui valent 30 millions mais qui ne vont être pas un pied devant l'autre ou d'autres, c'est l'Olympique de Marseille. Donc, si c'est encore des NDA.
Si je vous ai bien compris, grosso modo, tout le monde est satisfait de l'arrivée de De Zerbi.
On
attend de voir. Hein, grosso modo, vous êtes tous satisfaits. On est curieux justement de voir De Zerbi sur le banc de l'Olympique de Marseille.
Stéphane,
est-ce que tu as des infos s'agissant justement des droits TV?
Non,
où est-ce qu'on en est?
Non, il y a pas plus.
Parce que De Zerbi, c'est bien beau, mais est-ce qu'on pourra voir les matchs à la télé?
pour l'instant, c'est pas gagné. Ou alors faudra payer. D'après moi, il y a une petite. Il y aurait peut-être une. Je ne me rappelle plus de par quel biais, mais il y a toujours une petite chance que Canal Plus revienne dans
avec
le.
Dans
le...
Avec
Dazen.
Avec Bean. Moi, j'ai vu plutôt avec Bean. Non
ouais, là, les derniers trucs, c'est que.
J'ai vu un duo Bean-Canal.
C'est ça. C'est que la Ligue a présenté sa chaîne en disant que c'était viable, une chaîne à 25 ou 30 euros. Bon, après, on a tous vu sur quoi ils tablaient, ça a l'air totalement lunaire. Mais en tout cas, la Ligue prétend qu'ils peuvent le faire. Et effectivement, l'autre plan, c'est que Bein et Canal réussissent à passer un accord. Mais là, on parle d'un accord qui serait en dessous des 500 millions d'euros l'année. Ouais. Il faut savoir qu'on est quasiment, je crois, à 2 milliards d'euros en Première Ligue par an. Ça veut dire qu'il y a encore un fossé qui va se creuser au niveau de la compétitivité. Ce serait une catastrophe. Et encore une fois, merci Vincent Labrune d'avoir tué le
plus
français.
C'est une catastrophe. Hein,
bon, les amis, on va clore là-dessus. Et juste avant, un petit quiz rapide à 20h55. Les amis, c'est simple. Quels sont les numéros effectifs des joueurs de l'équipe de France? Je vous donne un numéro et vous me donnez le nom du joueur qui porte le numéro.
Je te connais.
Bah, je vais vous arranger. Je vais vous donner des joueurs qui ont déjà foulé la pelouse lors de cet euro-là. Alors, si on fait comme ça... Non, lui n'a pas encore joué. Lui non plus. Numéro 25. Qui porte le numéro 25 en sélection française? Numéro 25.
Prends les tâches.
Fofana?
Non,
Saliba. Fofana, c'est 19.
Numéro 25.
Bah, 25.
Ellier.
Barcola.
Ah. Bradley Barcola.
Qui porte le 19?
Youssouf Fofana.
Fofana,
ouais, c'est bon. Qui porte le 5?
Jules Koundé.
Qui porte le 8?
Chouamini.
Ça, c'est le numéro facile.
Qui porte le 13?
Kanté. Le 22.
Le 17, c'est qui?
Le 17.
Rabiot.
C'est Thuram.
Saliba.
Thuram. Saliba. Et le 4?
Upamecano.
Ah, vous êtes incollable là. Tiens, le 16.
Maignan.
Le 16, Mac Maignan.
Il avait vu la question.
Non, les gardiens, c'est 16 et 1. Toujours.
Et puis, pour la route, le numéro 6.
Le numéro 6, bah justement, Kamavinga.
Kamavinga, effectivement. Et le numéro 20, tiens.
Qui a déjà joué, le numéro
20. Oui, il a déjà joué.
Non, Thuram, c'est le 15.
Dembélé?
Non.
C'est Colombo. Non, Dembélé, c'est le
11. C'est 12.
Numéro 20.
Giroud.
Bayern Munich.
Coman.
Coman.
Ouais, ouais. Le Coman, ouais.
Merci les amis d'avoir été des nôtres.
Coman, le pauvre, il passe complètement à côté.
On va se retrouver justement pour les quarts de finale. Ce sera
à côté Coman, franchement.
Ce sera donc France-Portugal ou France-Slovénie. Et puis dans exactement 3 minutes, justement, on aura donc l'opposition Portugal-Slovénie. On se dit à très vite. Léo réalisé au bout du foot, spécial Euro 2024. Salut.
Paris FM.